Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de l'abbé Jean-François Duhard et Christian Gélis. Christian Gélis, vous êtes le président de l'association Le Toit du Cœur à Lourdes. Abbé Jean-François Duhard, vous êtes membre cofondateur de cette association. Vous étiez curé de Lourdes au moment de la création de cette association et vous avez initié les travaux dans l'église paroissiale, l'église du Sacré-Cœur, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, Radio Présence était venue à votre rencontre. C'était le lancement de ce vaste chantier de réfection de l'église paroissiale de Lourdes, l'église du Sacré-Cœur. 10 ans après, où en sommes-nous? Quels sont les travaux qui ont été réalisés? Il y a eu plusieurs tranches et puis récemment le dévoilement des travaux dans le cœur de l'église. C'est l'occasion pour nous de faire non seulement un point d'étape, mais d'observer, de contempler un petit peu cette église paroissiale telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'on va revenir un petit peu au point de départ. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer l'un et l'autre quels étaient les enjeux? Au début, il y a 10 ans, quels étaient les enjeux quand vous avez lancé cette association, le Toit du Cœur? Abbé Jean-François Duhard.
Il y a 10 ans, il pleuvait dans l'église. Donc il fallait, face à cette urgence, travailler avec les pouvoirs publics pour voir comment on pouvait pallier à ce souci qui est quand même majeur si on veut utiliser une église et qu'il y pleut dedans. Donc, s'il pleut, c'est qu'il y a un problème avec la toiture. Et à partir de là, on s'est aperçu que cette toiture qui était défectueuse, malheureusement, elle n'était pas la seule cause de la dégradation de ce bâtiment.
Christian Gélis.
Écoutez, Jean-François, du coup, vient de vous indiquer les enjeux. C'était des enjeux très pratiques d'utilisation et d'état de sécurité et de fonctionnalité du bâtiment. Lorsque Jean-François est arrivé, donc il y aura 15 ans, a pris ses fonctions, il avait aussi déjà à l'époque un certain nombre d'intuitions sur l'aménagement et l'intention artistique attachée évidemment à la pastorale. Et donc lorsque en 2015 très exactement, on a constaté l'ampleur et l'urgence de ce qui devait être fait, dans un premier temps, nous avons soutenu, en créant l'association du Toit du Cœur, le mécénat qui devait venir compléter les finances de la ville, parce qu'il ne s'agissait plus simplement d'un toit, mais bien d'une réfection infiniment plus large et probablement 5 à 7 fois plus coûteuse que ce qui avait été budgété initialement. Et puis, bien, forcément, on s'est greffé là-dessus aussi l'idée de dire, bon, ok, on restaure, on remet en état. Et comment peut-on aller plus loin pour projeter notre église paroissiale dans le siècle qui vient de débuter avec une signature artistique, mais donc artistique et donc fatalement spirituelle. Je ne dirais pas fatalement, forcément spirituelle. Et l'un des premiers gestes a été, bien entendu, de s'interroger sur le sort de cet orgue qui était dans le cœur de l'église, qui, très objectivement, avait été mis là dans les années 90, parce qu'il n'y avait pas eu suffisamment d'argent de collecte pour l'installer en tribune. Et l'idée forte de Jean-François, et ça c'était déjà bien avant la question de la sauvegarde pure et dure, c'était de dire il faut que cet orgue retourne en tribune. C'est là qu'est sa place, sa place légitime et sa place acoustique. Et à partir de là, évidemment, quand l'orgue est retourné en tribune, il a libéré et nous a rendu ce cœur dans son entièreté.
Et c'est là que vous avez vu qu'il y avait d'autres choses à faire dans le cœur.
Et clairement, le cœur rendu, qui nous était rendu dans son entièreté jusqu'au fond du chevet, nous a laissé apparaître. C'était écrit, c'était sous nos yeux la nécessité de repenser effectivement ce lieu comme un espace sacré, mais du coup en faisant des choix. Des choix qui étaient forcément des choix artistiques, en créant un retable, alors on ne va pas le décrire, mais d'aucuns pourront le voir, mais en créant un retable, en décorant ses enfeux, en l'éclairant, en travaillant aussi sur ce nouvel aigle lutrin qui est pas banal à l'époque où nous sommes, puisque je crois que c'est quand même, comme intention, c'est une œuvre unique parce que je ne crois pas qu'on en fabrique beaucoup, et en tout cas unique parce qu'elle est en verre de Murano, et que ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et donc, voilà comment on est parti aussi pour cette intention artistique qui nous a mené, effectivement, comme point d'orgue, où est-ce qu'on en est 10 ans après ? Eh bien, presque jour pour jour, on en est à ce dévoilement du cœur, Et le cœur, c'est l'espace central, c'est là où tout se passe. Et très symbolique, très symboliquement, ça marque quelque part, non pas tout à fait la fin définitive d'un certain nombre de choses, mais une étape majeure pour que les fidèles qui viennent à l'église puissent avoir la messe dans le cœur, et dans un cœur qui est aussi porteur de sens et de signification.
Et oui, parce que l'objectif, c'est quand même ça. C'est que, enfin, vous allez nous le dire, mais le premier objectif, c'est que la communauté paroissiale puisse avoir son lieu de prière, de rassemblement pour prier, pour adorer le Seigneur. C'est ça l'objectif premier, quand même.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que l'actuel curé de Lourdes a à cœur de retrouver cette église paroissiale, ce que je comprends. Et c'est pour ça qu'avec Christian et les pouvoirs publics, on a fait en sorte que ces travaux vraiment progressent rapidement pour que nous puissions, et que les paroissiens de Lourdes, avec leur nouveau curé, puissent retrouver ce lieu de culte qui est majeur pour la vitalité d'une communauté chrétienne, bien évidemment.
Pour que les travaux puissent se faire rapidement, néanmoins 10 ans, c'est quand même long. Pourquoi ça a été si long ?
Plusieurs choses. Effectivement, des choses sont apparues au décours de ces années qui n'avaient pas été envisagées dans un premier temps. Et puis nous-mêmes, en fait, nous étions partis au départ très clairement pour accompagner un financement par de la recherche de mécénat, ce que nous avons fait avec un certain succès. Et puis très rapidement, il nous est apparu qu'il fallait poser une intention nouvelle sur le plan artistique, et en tout cas sur le plan du contenu en art sacré, non pas pour en faire un musée ou une galerie, mais pour accompagner le message spirituel qui contenait. Et tout ça nous est venu au fur et à mesure. Quand vous prenez le cas du polyptyque qui vient d'être inauguré, c'est un travail et un projet qui remonte à plus de 2 ans désormais.
Alors le polyptyque, il faut expliquer ce polyptyque. Eh bien, il est composé de 5 tableaux, on peut dire des tableaux gigantesques, monumentaux, qui ornent vraiment le cœur, le fond du cœur de l'église. Je pense que là, c'est l'occasion vraiment de présenter cette œuvre, qui est effectivement à la fois une œuvre d'un artiste, Philippe Pugeot, mais qui est au service de la prière et qui doit nous rapprocher du Sacré-Cœur.
Une fois que ce tabernacle rétable a été créé en osmose avec l'habillage de l'autel, derrière, il s'est avéré un espace libéré par l'orgue, mais cet espace semblait très vide. Et donc, après avoir réaliser le rétable et avoir peint le chemin de croix, on s'est dit ça serait bien si on créait des tableaux. Alors, comment définir le thème ? L'Église, voulue par Mgr Peyramale, le curé des apparitions, a été mise sous le vocable du Sacré-Cœur. Donc, tout naturellement, à Christian et à moi, nous est venue l'idée de voir comment on pouvait illustrer l'histoire de la spiritualité du Sacré-Cœur en France. Voilà comment est né le thème de ce polyptyque, donc de ces 5 gigantesques tableaux qui illustrent effectivement cette histoire. En prenant pour illustration, Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, Saint Jean Eudes, Sainte Marguerite Marie, et puis, bien évidemment, le vœu de Louis XIV, qui n'a jamais été fait, de consacrer sa famille, son royaume, au Sacré-Cœur, chose que fera Louis XVI à la prison du Temple. Voilà un petit peu pour le thème iconographique de l'histoire du Sacré-Cœur en France.
Alors, Christian Gélis, je me trouvais le dimanche 18 mai à l'église paroissiale de Lourdes au moment du dévoilement de ces tableaux. Après la messe et ce moment de dévoilement, les paroissiens ont pu venir s'approcher, voir. Alors, c'était intéressant d'entendre les réactions, les commentaires des uns et des autres qui disaient en fait, c'est époustouflant, c'est magnifique, c'est coloré, mais on a besoin de temps pour le comprendre, pour comprendre vraiment le lien avec le tabernacle qui est là juste devant. Vous comprenez ça? Vous entendez ce besoin d'avoir un temps d'adaptation, d'appropriation?
Je dirais même que si on ne vous avait pas dit ça, ça m'aurait presque attristé, parce qu'il faut, il y a un sens dans tout ça, et il faut faire parcourir un chemin pour le pénétrer. Ça ne s'offre pas à nous d'une manière évidente, posée comme ça, comme quelque chose comme l'on cueille. L'idée même, c'était de, effectivement, alors je ne dirais pas de choquer les esprits, mais en tout cas de les interpeller un peu vivement, c'est ce qui s'est fait, pour les faire réagir. Si on avait choisi de faire quelque chose de très sulpicien, la énième copie de représentation, finalement, on aurait dit « Ah ben, c'est joli ». Le but n'était pas de faire joli pour faire joli, c'était de passer un message, et pour que le message soit fort et qu'il passe, il faut bien qu'il soit volontairement un peu disruptif avec le mode d'expédition des messages de l'époque.
Donc le message, c'est quoi? C'est adorer, contempler ce cœur qui a tant aimé les hommes?
Je crois que vous venez de le dire, non? Voilà.
C'est à vous de me le confirmer.
Eh bien, je vous le confirme, mais ça c'est presque Jean-François qui aurait pu vous le confirmer, mais on va vous le confirmer ensemble. Le message il est pastoral dans une large partie, et puis dans la partie la plus élevée, il est profondément mystique. Il est important parce qu'en fait il redéfinit profondément l'identité de cette église dans son temps, cette église qui avait été consacrée au Sacré-Cœur de Jésus en 1800, voulu par Père Amal comme consacré au Sacré-Cœur de Jésus dès le début, dans les années 1875, ce qui vient 2 ans après l'histoire du vœu national 1873, qui avait été fait pour la construction de Montmartre suite à la fin de la guerre de 1870. C'est quelque chose qui a été porté en réaction et en reconsécration du pays. Ce qui est amusant, c'est que en fait, c'est une souscription qui a été votée à l'Assemblée nationale. Alors que l'époque était quand même déjà largement entamée sur ce qui allait nous mener à la séparation de l'Église et de l'État. Mais une fois de plus, comme on a pu le constater, que la querelle de 1905 s'était éteinte entre 14 et 18, parce qu'il avait fallu resserrer les rangs, et bien déjà, à l'époque, après la guerre de 1870, et bien tout le monde avait resserré les rangs, et la souscription pour la construction de Montmartre, Sacré-Cœur de Montmartre, à l'initiative effectivement de 2 personnes dont le nom m'échappe pour l'instant, et pourtant nous l'avons beaucoup dit, cette souscription a été votée à l'Assemblée nationale, et ça peut appeler un vœu national pour la construction d'une basilique au Sacré-Cœur. Eh bien, Père Amal, il était l'homme de son temps. Donc, tout naturellement, dans ces années-là, la référence au Sacré-Cœur s'est imposée à tous dans un temps, et il nous appartenait d'en donner à voir, à méditer, à contempler, à commenter, en tout cas, à ne pas laisser les esprits vides de réflexion, et à leur offrir et à offrir à tout le monde une occasion de s'interroger. Vous me dites qu'on n'entre pas nécessairement immédiatement dans cette histoire et dans cette affaire. Je vais vous dire, je m'en réjouis, parce que si la lecture était aussi évidente, je crois qu'il n'y aurait pas de cheminement, il n'y aurait pas de méditation, il n'y aurait pas de contemplation. Et il en est de cela comme de toutes les œuvres d'art. Je ne crois pas à la lecture directe. Voilà, je crois à un cheminement de l'esprit. Et là, il est proposé.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs œuvres d'art. Il y a plusieurs choses à contempler, mais il faut quand même regarder et lier toutes ces œuvres ensemble pour comprendre la dimension spirituelle. En fait, la dimension artistique, on peut la comprendre en regardant chaque œuvre une par une, mais la dimension spirituelle, c'est vraiment l'ensemble qui nous l'apporte.
Alors, bien entendu, mais même la dimension artistique, elle a été pensée dans son ensemble. Parce que vous aurez noté que la statue du Sacré-Cœur est en haut, est situé en haut d'une colonne qui a été placée là, et que le peintre a voulu que cette statue du Sacré-Cœur soit au centre et en avant de son travail de peintre, et il a voulu faire ce qu'on appelle en matière d'art une installation. Et donc le travail du peintre, c'est aussi articulée autour de la présence du Sacré-Cœur comme un stylite, n'est-ce pas ? La présence du retable, vous noterez quand vous regardez, que vous soyez en face, que les colonnes, par leur couleur et leur reflet, entendent bien répondre aux vitraux, aux œuvres. Cette répondance, ces résonances entre les œuvres, elle n'est pas seulement... elle est au final mystique et spirituelle, oui, c'est une évidence, mais elle est aussi pensée comme telle par l'artiste qui a voulu créer quelque chose de très serein, de très cohérent.